Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Deuxième entretien dans cette série des clés pour vivre consacrée à Marie, mère de l'Église, mère de Dieu, mère de toute consolation, Marie, mère médiatrice et porte du ciel. Que de titres. Pour intervenant, je reçois Don Anne-Guillaume Vernac de la communauté Saint-Martin, chapelain depuis 4 ans dans ce sanctuaire marial. Bonjour Don Anne-Guillaume.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors nous sommes dans une période autour encore de Noël. La semaine dernière, c'était le temps de l'octave. Nous avons fêté l'Épiphanie et ce week-end, dans quelques jours, c'est le baptême du Seigneur. Nous sommes entre deux belles fêtes et toujours dans ce temps de Noël, temps particulier et ce mystère au fond de l'incarnation. Mais expliquez-nous.
Je vais venir sur le temps de Noël parce que c'est effectivement un temps qui passe très rapidement. Il dure 15 jours quoi, depuis la fête de Noël, qui tombe toujours le 25 évidemment. Et aussitôt après, on a la fête de Marie, Mère de Dieu, donc dans l'octave, on en a parlé hier encore. Et ensuite, c'est la fête, le dimanche qui suit, c'est la fête de l'Épiphanie avec l'adoration des mages. Et le temps de Noël se prolonge jusqu'à la fête du baptême du Seigneur, ce que nous fêterons donc dimanche prochain. C'est tout ça le temps de Noël, et il faut bien en profiter parce qu'il est très court, donc il dure à peine 15 jours. Et c'est très rapide, et puis comme il y a la rentrée, il y a tout ça qui se bouscule, et puis les fêtes, il faut se remettre des fêtes aussi, c'est
tout
pas toujours
fait,
facile.
Oui.
Et puis finalement, on célèbre pas toujours très très bien le temps de Noël.
Alors qu'on célèbre parfois un peu mieux le temps de Pâques.
Le temps pascal est parfois plus marqué, même s'il n'est pas dans les vacances
scolaires. Et vous l'expliquez comment
scolaires. Je l'explique parce qu'il est trop court ce temps de Noël, et puis trop en conflit avec toutes les fêtes. Voilà, on aime bien faire la fête, mais du coup, on oublie le sens de la fête. Alors, pas tant de la fête de Noël en elle-même, mais de ce temps de Noël. C'est tout un temps que l'Église nous donne pour méditer sur ce mystère de l'incarnation. Voilà, Dieu s'est fait homme et l'univers entier, le cosmos, l'humanité, mais tout en est totalement bouleversé. Il y a quelque chose de tout à fait anormal que Dieu puisse devenir un homme. Tout en restant Dieu, attention. Dieu s'est fait homme. Il faut qu'on reste un peu choqué par cette formulation de la foi chrétienne. C'était choquant quand on a commencé à comprendre que ce Jésus était fils de Dieu, mais carrément, véritablement Dieu. Bien les juifs contemporains de Jésus, beaucoup ont achoppé à cela. Et beaucoup de nos contemporains encore achoppent à cela en disant que c'est juste pas possible que Dieu se fasse homme. Donc c'est l'apanage de la foi chrétienne de reconnaître cela. Donc il faut que nous en soyons fiers, il faut que nous puissions le reconnaître, être fiers de ce Jésus qui est Dieu, et reconnaître que ce Jésus-là, s'il est Dieu, s'il est venu, si Dieu est venu auprès de nous comme un homme, avec toutes ses vulnérabilités, avec ses fragilités, il est né comme un homme, il était conçu, il est né comme un homme, il a vécu comme un homme, ça doit vraiment toujours nous impressionner beaucoup. Pensons à ces 30 années de vie totalement cachée, secrète à Nazareth. Qu'est-ce qu'il avait dans son âme, dans son cœur, qu'est-ce qu'il vivait auprès de sa mère en particulier, auprès de ses cousins, cousines à Nazareth, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette vie-là de cet homme, et cet homme qui est Dieu. Quel secret profond il a gardé pendant si longtemps avant de pouvoir s'avancer sur les routes de Galilée pour dire qu'il venait de Dieu, qu'il était Dieu lui-même, et donc il venait pour nous sauver. C'est ça le mot de ce mystère de l'incarnation, c'est qu'il est le sauveur et il vient nous sauver.
C'est là où se tient finalement le mystère, mais un mystère dans le grand miracle aussi. Ce Dieu se fait tout petit dans la fragilité. C'est quelque chose de tellement grand et à la fois parfois compliqué aussi à comprendre, ce mystère de l'incarnation.
C'est la grandeur
fragile,
de Dieu.
Il se fait petit entre nos mains. Il se laisse contempler, approcher.
Il n'y a que ceux qui sont très grands qui peuvent se baisser profondément. Et donc c'est le mystère de Dieu, de sa grandeur, de sa majesté. Et il est capable de se faire tout petit enfant dans la crèche comme nous l'avons découvert.
Et de la crèche tout petit, il se fait tout petit dans les mains des prêtres.
Alors aussi, oui. Mais je voulais avancer avec la Vierge Marie.
Oui,
parce que
la Vierge Marie.
Si on se souvient de la conception de Jésus, donc dans le sein virginal de Marie à l'Annonciation, donc le 25 mars, 9 mois avant Noël évidemment, eh bien finalement Marie est la seule témoin de ce grand mystère de l'incarnation. Elle sait, et elle est la seule à le savoir. Alors Joseph va le comprendre très rapidement, évidemment, mais pendant 30 ans, ils vont garder à tous les deux ce secret, que leur enfant est le fils de Dieu.
Le secret de Marie.
C'est le secret de Marie, finalement. Elle a gardé ça dans son cœur tout le temps et jamais elle ne l'a révélé à personne. C'est Jésus qui s'est proclamé aux hommes comme tel et nous l'avons reconnu comme cela. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Et Marie a gardé ce secret. C'est quelque chose de très, très impressionnant de dire qu'elle a su garder le plus grand secret du monde, finalement. Une minute de silence pour méditer cela.
Et oui, parce qu'on a peut-être très peu médité aussi sur ce grand secret des 30 ans aussi de la Vierge Marie,
oui.
qui va méditer tout en portant aussi cet enfant de Dieu.
30 ans d'adoration.
30 ans d'adoration.
30 ans d'adoration continuelle.
Et puis, en vue de ce mystère aussi d'un Dieu sauveur pour toute l'humanité.
Oui.
Que pensait la Vierge dans ces 30 ans de vie?
Elle devait nourrir une véritable impatience de voir son fils se manifester, se révéler. Mais jamais elle a pu le manifester auprès de Jésus. Elle a vraiment tout gardé dans son cœur. L'Évangile le dit, elle gardait tout dans son cœur. C'est la grâce de Marie, c'est ce qui fait qu'elle est vraiment mère, alors vis-à-vis de Jésus évidemment, mais que plus tard, on en parlera d'ici la fin de la semaine, elle deviendra notre mère et la mère de l'Église. C'est quoi la capacité d'un cœur de mère? C'est de tout garder dans son cœur, précisément, de tout garder comme un énorme secret. Alors c'est parfois un poids très lourd.
Et un trésor.
Un trésor qui peut être parfois un poids très lourd, mais mettre une très grande joie. Une très grande joie. Et on le verra en particulier si on a le temps de contempler Marie au pied de la croix.
Et on le voit, hein, vous parlez de joie, il y a la joie de Marie, les mystères aussi joyeux et puis les joies aussi douloureuses de cette mère,
oui.
mère du Sauveur, qui passera par toutes les étapes de la joie, de la douleur. Elle enfante, mais dans la vie, dans la joie, au cœur de la croix.
Oui, ce qui est ça qui est très impressionnant avec la Vierge Marie, c'est qu'elle a toujours accompagné son fils du début à la fin, quoi. De la conception de Jésus en elle jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, Marie était là. Là, c'est sa mission maternelle vis-à-vis de Jésus qui prend toute sa splendeur là. À aucun moment, elle ne s'est séparée de Jésus. Je pense que Jésus a pu prendre ses libertés. Voilà, l'homme quittera son père et sa mère, et Jésus l'a vécu vraiment. Mais ça n'empêche pas la mère de rester la mère. Et donc, elle est restée mère de Jésus et elle l'a été de manière magnifique au moment où Jésus mourait sur la croix. Et elle recevait encore le corps mort de son fils dans ses bras, comme elle l'avait reçu vivant, venant à peine de naître pendant la fête à Noël à Bethléem. Et les chrétiens ont joué sur cette double image de Marie qui enveloppe l'enfant Jésus de l'ange et qui le dépose dans la crèche, et puis de Marie qui enveloppe le corps de son fils mort de ce linceul et qui va le déposer au tombeau. Et dans l'iconographie, les deux registres sont toujours présents.
Donc c'est vraiment ce chemin de la Vierge Marie, de la crèche, au moment de Noël à Bethléem, à ce moment ultime de la croix, de la crucifixion.
Oui.
C'est inséparable, ces deux événements sont inséparables. Et oui. C'est ce qui fait, je dirais, la beauté, la grandeur et la vocation maternelle de Marie pour tous les hommes.
Alors d'abord pour Jésus, déjà. Pour Jésus, avec la conscience que ce Jésus, par le mystère qu'il représente en tant que Dieu fait homme pour notre salut, hein, ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il va s'agréger dans son propre corps tous les hommes qui croiront. Et c'est cela qui va faire de Marie la mère de tous les hommes, des hommes de foi. Elle est notre mère dans la foi. On dit dans la tradition biblique que Abraham est notre père dans la foi parce qu'il est le premier à avoir cru, à avoir entendu l'appel de Dieu, à y avoir souscrit, à avoir cru. Mais nous avons aussi une mère dans la foi, et c'est Marie. Et la foi de Marie est beaucoup plus pure et plus grande et plus puissante que Abraham. Là, on pourrait faire des traités de théologie sur la foi de Marie par rapport à la foi d'Abraham. Mais je donne juste un petit exemple, en particulier donc au moment où Jésus mourait sur la croix. Marie savait, parce qu'elle avait, elle avait le souvenir de l'annonce de l'ange, elle savait pourquoi son fils mourait, et elle gardait pure donc sa foi et son espérance de nous voir un jour croire avec elle. Donc si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que Marie a cru de manière impressionnante, vertigineuse, au moment où son fils mourait sur la croix.
Marie, femme exceptionnelle. Vous décrivez une femme exceptionnelle.
Une mère.
Ouais.
Une femme, oui, une mère.
Et une mère, vous parlez, vous...
Toutes les mères sont exceptionnelles.
Mais Marie en particulier.
Marie, oui, bien sûr. Mais oui.
Elle a été choisie parmi toutes les femmes.
Oui.
C'est l'Immaculée Conception.
Oui, alors l'image de conception, sa grâce qu'elle avait, elle y restait fidèle, bénie entre les femmes. C'est cette parole de sa cousine Élisabeth au moment de la visitation. Bénie entre toutes les femmes parce qu'elle a cru. C'est ce que dit exactement Élisabeth.
Voilà. Parce qu'elle a cru. Ouais.
On peut se tourner vers la Vierge Marie et lui demander qu'elle soit notre mère dans la foi, c'est-à-dire qu'elle nous aide à croire, qu'elle fortifie notre foi et notre espérance. Peut-être dans les moments les plus difficiles de notre existence, Marie est toujours un secours pour notre foi et pour notre espérance.
Alors, en cette année 2021, invoquons le doux nom de Marie.
Oui. Ouais. Oui, on sort d'une année douloureuse, il faut que 2021 soit pleine de promesses et d'espérance. Et donc, on a cette grâce là que le pape François nous a orienté vers une année dédiée à Saint-Joseph. Donc je pense que Marie a toute sa place dans une année à Saint-Joseph. Donc tournons-nous aussi avec force à la Vierge Marie.
Ce que je ne fais pas d'habitude, je vais faire quelques changements dans cette émission. Je vais vous demander exceptionnellement, en cette fin d'entretien, de bénir les auditeurs derrière ce micro. Une bénition particulière.
Alors on implore la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent et toutes les intentions qu'ils ont dans leur cœur, qu'il les comble de sa grâce, qu'il fortifie effectivement avec la Vierge Marie, qu'il fortifie leur foi, leur espérance, et que nous puissions tous avancer sur notre chemin de vie chrétienne dans la rencontre du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Merci Don Anne-Guillaume Vernac pour cette bénédiction en ce deuxième jour d'entretien. Je vous propose de vous retrouver demain à cette même place et dans ce même lieu et ce message de Lourdes, si vous voulez bien. À demain.
Nous continuons à demain, merci.
Merci.